Alléluia. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. J'ai entendu dans une louange ce matin qu'on n'était pas réunis pour voir. On n'est pas comme dans un musée pour voir des choses qui n'existent plus, qui ne sont plus. Mais nous sommes réunis autour de celui qui est ressuscité, qui est vivant, qui est au milieu de nous pour nous bénir, pour nous parler encore autour de sa parole. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir le livre des psaumes, le psaume 36. Psaume 36, pour aller chercher dans ces quelques versets le titre de notre message ce matin, psaume 36, verset 8. Je vais vous harceler de versets, c'est mon habitude. Mais je pense que c'est un bon harcèlement. 36, verset 8, je crois que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Nous avons charge de la commenter, mais je pense qu'on ne ferait que lire les textes de la parole de Dieu. Cela est largement suffisant pour fortifier nos âmes ce matin. Psaume 36, verset 8, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Car auprès de toi est la source de la vie. Ils ne sont pas merveilleux ces versets ? La parole de Dieu à elle-même, elle se suffit pour fortifier nos cœurs et nos vies. Le titre de mon message ce matin, c'est « Auprès de Dieu est la source de la vie ». Auprès de Dieu est la source de la vie. Qu'il est parfois loin, le temps où nous nous abreuvions avec joie et simplicité à cette source de la vie. Et peut-être avec honnêteté ce matin, nous pouvons reconnaître que parfois nous avons négligé, à cause peut-être de circonstances difficiles dans notre vie, de rester auprès du Seigneur, auprès de Dieu, où il y a cette eau de la vie dont nous avons tellement besoin. Chaque jour de notre vie, nous le partagerons tout à l'heure. Que ce soit peut-être parce que notre foi a été ébranlée, peut-être parce que le diable nous a réclamé pour nous cribler comme le froment, que ce soit les épreuves difficiles de notre vie, il y a tellement de raisons, dirais-je, de s'éloigner de la source de la vie. Ce matin, nous voulons réaliser encore au travers de la parole qu'il est important pour nous d'être toujours auprès de Dieu, parce que c'est auprès de lui qu'est la source de la vie. Peut-être c'est des expériences que vous faites dans votre cœur et dans votre vie quotidiennement, mais peut-être aussi qu'il y a des domaines de votre vie qui sont comme une terre aride, desséchée, peut-être des domaines particuliers sur lesquels vous n'avez jamais réussi à laisser le fleuve d'eau vive du Seigneur altérer cette parcelle un peu particulière. L'Éternel nous rappelle ce matin encore que le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau. Et que nous avons besoin, les uns et les autres, de rester auprès de Dieu, qui est la source de la vie. Nous avons peut-être parfois été si négligents, et bien que Dieu, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, est obligé de nous reprendre avec fermeté. L'Éternel a dit, par la bouche du prophète Jérémie, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. » Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Quelle folie, un double péché. Non seulement délaisser la source d'eau vive, non seulement la délaisser, cette eau de la vie, mais en plus chercher ailleurs se débrouiller tout seul, une sorte de suffisance personnelle, aller puiser dans une eau stagnante et boueuse, dans des cisternes qui n'arrivent même pas à retenir cette eau, que préférer le rafraîchissement de la source de vie qui vient du trône de Dieu. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous faites des petites randonnées parfois en montagne, quand on voit ces petites sources-là, l'eau qui court, qui descend, et qu'on a soif, ça donne envie, il faut faire attention quand même, on ne peut pas boire n'importe où. Mais honnêtement, si je devais remplir ma gourde, je préférerais la mettre là que dans une mare à côté où l'eau est stagnante depuis longtemps. Je ne sais pas vous, comment vous feriez ? Il n'y a pas photo ? C'est pareil au niveau spirituel. Nous avons rajouté peut-être des choses. Il peut y avoir, et c'était le cas du peuple d'Israël, de s'être tourné vers des idoles, l'idolâtrie, toute la religion, la tradition que l'on peut rajouter, chercher dans ces choses-là le rafraîchissement qui n'en est pas un, et négliger Dieu qui est la source de la vie. Au contraire, ce matin, nous voulons pleinement réaliser que c'est trop près de Dieu qu'est la source de la vie. Toute la parole, du début jusqu'à la fin, témoigne de la puissance de vie qui émane du trône de Dieu, comme nous venons de le chanter. Et je voudrais lire avec vous ce second texte dans Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23 et au verset 55, c'est verset de la résurrection de Jésus-Christ pour que nous voyons la puissance de vie qui se dégage du trône de Dieu. Luc chapitre 23, verset 55, comme nous l'avons chanté, il roule la pierre, le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. Luc 23, verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils lui dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? À juste raison, pratiquement à toutes nos réunions, et comme l'a rappelé notre frère Jonathan ce matin, nous focalisons nos instants sur la mort de Christ à la croix du calvaire. Et nous avons raison de le faire, c'est le centre, et c'est surtout pour nous aussi le moyen d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, la croix du calvaire. Mais il est important aussi, voire primordial pour nous, de faire constamment référence non seulement à la mort de Christ, mais il faut être insistant aussi sur cet événement déterminant de l'histoire chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité. C'est tellement déterminant que l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi, elle est vaine. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Ce qui signifie tout simplement que le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire, si important soit-il, serait totalement vain sans la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit ceci, cette eau, il parle du déluge, cette eau, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 21, maintenant qu'il vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Important pour nous de réaliser que la résurrection de Christ, c'est comme le pilier de toute l'histoire chrétienne. Nous nous réunissons le dimanche parce que c'est le premier jour de la semaine, jour où Christ est ressuscité. Et ce thème de la résurrection était au centre, en tout cas, de cette première prédication, ce jour merveilleux de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, où on peut dire qu'il y a eu comme une explosion de vie et la naissance de l'Église. Et nous voyons, on peut le lire ensemble dans Actes chapitre 2, au verset 22, cette prédication extraordinaire de l'apôtre Pierre, remplie de vie, d'assurance dans ces quelques paroles. Et ce thème central dans ces quelques paroles qu'il donne de la résurrection de Jésus-Christ, Actes chapitre 2, verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair ne reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Ô homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. C'est la résurrection du Christ qu'il avait prévue et annoncée. Quelle merveilleuse réalité pour nous de savoir que Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est présent dans nos vies, présent au milieu de nous. Je sais que la vue physique nous empêche peut-être parfois de réaliser ces réalités spirituelles. Mais je crois qu'il y a une délivrance, il y a une possibilité pour nous que nos cœurs s'ouvrent chaque fois que nous réalisons vraiment qu'il est au milieu de nous. Nous le chantons parfois, Jésus est au milieu de nous. Mais réalisons-nous vraiment qu'il passe dans les rangs, qu'il est là pour te toucher, qu'il te voit, qu'il veut te bénir, qu'il est loin d'être indifférent à ta situation. C'est peut-être celui qui la connaît la mieux, cette situation, peut-être mieux que toi-même. Christ est vivant. Alléluia. Oui, c'est vraiment auprès de Dieu qu'est la source de la vie. Ça, c'était mon introduction et je voudrais partager mon message en trois parties. Elles seront assez rapides. La première partie, c'est de vous dire que Jésus est la vie. Et la deuxième partie, c'est que Jésus donne la vie. Et la troisième partie, par laquelle nous terminerons tout à l'heure, Jésus nous nourrit de sa vie. Première partie, Jésus est la vie. Et c'est important pour nous de réaliser que Jésus-Christ est la vie. Il est porteur de cette vie qu'il veut nous communiquer. On va le lire au travers de certains versets. On va lire dans l'évangile de Jean. On va commencer au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Il est plus facile parfois de réaliser que en Dieu est la vie. Mais pour nous, dans cette première partie, c'est important de réaliser que c'est dans la personne de Jésus-Christ qu'est la vie. Vous savez que dans l'histoire chrétienne, et malheureusement ça revient encore aussi de nos jours, il est difficile de mettre parfois au centre Christ. Les gens se retrouvent, il y a, vous savez, tous ces mouvements plus ou moins œcuméniques autour de Dieu. Peut-être pas forcément difficile pour eux de se retrouver, mais la question de Jésus-Christ, qui est pourtant la question centrale du christianisme et qui doit le rester, est beaucoup plus délicate. C'est pour ça que j'ai voulu revenir avec vous sur cette pensée, c'est que c'est précisément Jésus qui est la vie. Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Il est question de Christ, de cette parole, le Verbe qui a été fait chair en la personne de Jésus-Christ. Cette parole, en elle, en Christ, était la vie. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Jésus est la vie. Comme le Père est la vie, Jésus aussi est la vie. Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. La vie nous est prêtée. Nous ne la maîtrisons pas. Elle nous est prêtée pour un temps que Dieu définit. Mais par contre, pour ce qui est de Dieu, il est la vie. Et son Fils a reçu en lui-même aussi la vie. Jésus et la vie. Un peu plus loin dans Jean au chapitre 11, je vous avais prévenu que je vous harcèlerai. Jean chapitre 11, verset 21, ce passage extraordinaire de la résurrection de Lazare. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Amen. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est la vie. D'ailleurs, regardez au chapitre 14 et au verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui-même qui dit ceci après une question de Thomas. Jean 14, verset 6, des versets que nous connaissons bien. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. » Jésus est la vie. Je vais vous citer un autre texte. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je vous ai lu des versets de 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Et je me permets d'en lire un autre avec... Je le lis pour vous, je vous épargne un peu. Ce sont des textes que je voulais lire avec vous, mais voilà, je vais essayer de ne pas abuser de votre patience. Voici ce que l'apôtre Jean déclare aussi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est la vie. Tous ces textes montrent clairement que Jésus est la vie. C'est pour ça que j'ai pris peu de temps pour que nous puissions en être convaincus. Comme je disais tout à l'heure, parfois il y a cette réalité de la vie de Dieu sur laquelle beaucoup de gens essayent de se réunir et de se comprendre. Mais la question centrale et le point central du christianisme et sur lequel nous devons insister, c'est que Christ lui-même est la vie. Et que nous ne pouvons pas essayer de trouver des chemins qui peut-être nous arrangeraient pour accéder au Père. Un seul chemin, Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Quand nous partageons ce matin que auprès de Dieu est la source de la vie, ça passe automatiquement par Jésus-Christ. Jésus est la vie. Il est stupéfiant de voir comment les hommes cherchent à se désaltérer par tous les moyens, alors qu'en Christ, ils pourraient trouver cette source d'eau vive, comme le rappelle le Seigneur Jésus dans la rencontre avec la femme samaritaine. Jésus répond à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jean chapitre 4, verset 4, en fait tout le chapitre 4, il est extraordinaire de cette rencontre où nous voyons véritablement de la source Jésus qui est la vie. Et cela va nous amener automatiquement à ce deuxième point parce que Jésus a dit ceci, celui qui boira de l'eau. Donc c'est important de réaliser que Jésus est la vie, mais c'est aussi, et c'est notre deuxième partie, fondamental de réaliser que c'est Jésus qui donne la vie. Jésus donne la vie à ceux qui, bien sûr, ont envie de la recevoir. Dieu ne force personne, Dieu invite, Dieu prépare. À nous d'accepter de recevoir l'eau de la vie. On retourne ensemble dans Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Alors là, il y a trop de versets, mais ce n'est pas grave, on ne va pas les lire tous. Mais sur ce thème, Jésus qui donne la vie, vous comprendrez que les textes sont abondants dans l'Évangile, mais peut-être quelques-uns, Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 21. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi, le Fils donne la vie. » Verset 39, 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus donne la vie. » Chapitre 6, ce chapitre, on y reviendra à la fin. Mais regardez verset 31. Verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Jésus donne la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Je parlais tout à l'heure de l'ennemi de nos âmes, le diable qui parfois essaye de nous détourner de cette véritable source de la vie. Il est écrit que le voleur ne vient, lui, que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu, afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Jésus donne la vie. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime, dit l'apôtre Jean. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. 1 Jean 4, verset 9. Quel gâchis. Avoir cette possibilité, je dirais aussi simple, parce qu'il y a la simplicité de l'Évangile, de recevoir la vie et de la refuser par incrédulité. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Que dire, notre monde aujourd'hui est malheureusement parfois dans le monde religieux. Jésus est la vie. Jésus donne la vie. Il désire la communiquer à ceux qui croient, ceux qui désirent boire, ceux qui voient dans le sacrifice de Jésus à la croix cette source d'eau vive qui va jaillir dans leur vie. Il y a à un moment donné un acte de foi. Dieu ne s'impose pas. Dieu invite à nous d'accepter, de recevoir, à nous de répondre positivement à cet appel d'amour. Et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là où, lorsque nous acceptons, qu'il se passe ce miracle extraordinaire que Jésus a expliqué à Nicodème de la nouvelle vie, nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sans passer par la nouvelle naissance, il est impossible pour nous d'accéder au royaume des cieux. Beaucoup ont compris que Jésus est la vie et qu'il souhaite donner cette vie, mais peut-être à cause de la tradition, peut-être parce qu'on est resté attaché à des principes particuliers, peut-être certains vivent des principes moraux tout à fait, on va dire, irréprochables, mais qu'importe. Sans passer par la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas devenir son enfant. Sans passer par la nouvelle naissance, nous n'accédons pas au royaume de Dieu. Il faut absolument, c'est un impératif, c'est Jésus qui nous l'a dit, il faut absolument une renaissance. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous avez tous ces versets dans Jean au chapitre 3. C'est important de rappeler encore ce matin que croire en Jésus, c'est-à-dire avoir foi en lui, vraiment avoir cette confiance en lui, ne signifie pas seulement que nos vies ont été lavées par le sang de Jésus-Christ à la croix du calvaire, mais cela signifie aussi pour nous que nous rentrons dans le règne de vie avec Jésus-Christ. À partir du moment où Christ est ressuscité, ce jour de la résurrection, le règne de la vie qui a triomphé de la mort et à laquelle nous sommes invités à participer. Jésus est la vie. Jésus donne la vie. Jésus communique la vie. C'est pour cela d'ailleurs que ces textes de la parole de Dieu ont été donnés. C'est l'apôtre Jean, en terminant ses écrits, qui dit ceci, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites. » Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20 et le verset 30. Nous pouvons et surtout nous devons vivre avec certitude la position qui est la nôtre du moment que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. C'est peut-être à force du suivi pastoral, des échanges avec beaucoup, je suis assez inquiet de voir parfois l'incertitude qu'il y a dans le cœur des croyants. Nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. Il est dit, celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Et parfois, dans notre cheminement, mais bien sûr que l'ennemi de nos âmes, les multiples péripéties de notre vie, parfois amènent le doute insidieusement et empêchent que le cœur du croyant saisisse pleinement ces réalités que nous partageons ce matin, saisisse véritablement, et peut-être que ça touche même au niveau d'allégresse et de joie et d'enthousiasme qu'il peut y avoir dans notre cœur, parce qu'il y a peut-être parfois des formes d'incertitude. Est-ce que j'ai véritablement la vie éternelle ? Et je crois que nous devons réaliser la position qui est la nôtre. Dans une louange ce matin, quelqu'un a interpellé le Seigneur sur cette réalité qu'il était ou qu'elle était un enfant de Dieu. Quelle position est la nôtre ? À quel prix ? Quel prix ? Le Seigneur, pour que nous puissions aujourd'hui avoir cet enthousiasme dans le cœur, il est ressuscité, il est vivant, et cette vie qu'il désire communiquer dans ma vie, il me la donne gratuitement en plus, à moi de la recevoir, de croire et de la saisir. On va lire, il faut qu'on le lise, 1 Jean 5, ensemble. Vous n'allez pas me croire. 1 Jean 5, il est trop merveilleux ce passage. Et Jean 5, verset 11, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie, elle est dans son Fils. Comme je disais, Jésus est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Puissance de vie qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Puissance de vie dans nos vies personnelles. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, et soulignez dans votre cœur ce « afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Jésus est la vie. Jésus donne la vie, il nous la communique, il nous remplit de son esprit, un esprit vivifiant. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie, même si c'est un processus, c'est une position acquise, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et c'est notre responsabilité de laisser la vie de Christ soit s'épanouir dans notre vie, peut-être dans cette notion du renoncement, peut-être dans cette notion de mourir à nous-mêmes, afin que la vie de Christ puisse pleinement prendre son essor dans nos vies. Oui, il y a un prix à payer. Même si tout ce que Dieu nous donne est gratuit, il y a un prix à payer sur notre propre vie. L'apôtre Paul aux Corinthiens dit, oui, nous portons toujours et en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Amen. Plus je meurs à ma vie personnelle, plus je laisse le Seigneur vivre à l'intérieur de ma vie, plus en définitive, ce qui se manifeste par ma vie, eh bien, c'est tout le fruit de l'Esprit. C'est une vie équivalente à ce que le Seigneur Jésus était lorsqu'il était sur la terre, manifesté. Voir Christ au milieu de chacune de vos vies. Je prie qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Et cela nous amène à ce dernier point. Jésus est la vie. Jésus donne la vie, la communique. Et troisièmement, Jésus nous nourrit de sa vie. Vous savez, pour que notre vie physique se développe, eh bien, nous cherchons à la nourrir depuis la naissance jusqu'à la fin. La nourriture, c'est ouf, une obsession. Beaucoup meurent en ce moment, faute de nourriture. Pour que notre vie eh bien, se développe, survive, nous cherchons à nous nourrir, cherchons à le faire en plus convenablement, c'est bien. Choisir la bonne nourriture. On fait attention à la qualité des aliments. C'est une excellente chose. Il doit en être pareil pour notre vie spirituelle. Comment je la nourris? Et je voudrais revenir quelques instants sur toute la symbolique du repas du Seigneur que nous avons partagé encore ensemble ce matin. Lorsque nous prenons le pain et le vin. On revient sur Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jésus est la vie, Jésus donne la vie, Jésus la communique et Jésus nous nourrit de sa vie. C'est important et fondamental. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Auprès de Dieu, mes frères et sœurs, est la source de la vie. Ce texte parle de lui-même. Alors attention, il ne faut pas prendre, bien sûr, ces paroles de Jésus dans le sens littéral. On est loin du cannibalisme, mais bien dans le sens purement symbolique, comme nous le faisons quand nous prenons le pain du boulanger, le vin, d'une manière symbolique. Mais pour autant, des symboles qui sont excessivement forts autour du repas du Seigneur. Lorsque nous prenons le vin, comme cela a été rappelé, c'est bien le symbole du sang de Christ qui a été versé à la croix. Et il y a deux symboles autour du vin, le symbole bien sûr de ce sang qui est répandu, le sang pour la purification de nos péchés. Il est écrit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ça c'est le symbole, le vin qui représente le sang. Mais c'est aussi le symbole de la vie, puisque quand il n'y a plus le sang, il n'y a plus la vie. Ce qui signifie que quand il y a le sang et qu'il y a la vie, c'est que dans le sang, il y a aussi la signification de la vie. D'ailleurs, il y a un verset du Lévitique qui dit « La vie de la chair est dans le sang », dans Lévitique 17, verset 11. Le sang de Christ représente aussi, et c'est le symbole aussi de cette vie. Il est question de manger la chair, le corps de Jésus, que nous symbolisons aussi par ce pain. Et c'est vrai que les aliments que nous ingérons, les aliments que nous faisons entrer par la bouche dans notre corps, eh bien, ils sont transformés en nutriments, ils vont ensuite être utilisés par le corps pour le bon fonctionnement et aussi le développement de notre corps. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, vous savez ces choses, mais c'est important de réaliser que de la même manière que ces aliments ont une incidence sur tout le développement de notre corps dans toutes les parties, de la même manière, notre vie spirituelle, elle a besoin de manger Christ pour que la vie de Christ se développe en nous. Manger sa chair, c'est lui permettre de prendre vie à l'intérieur de nous. De la même manière que les aliments que nous ingérons se transforment et permettent la vie et le développement de notre corps, quand je mange Christ, manger, c'est croire. Il était écrit au verset 47, « Celui qui croit en moi à la vie éternelle », c'est ça, manger la chair, c'est croire. Bien, lorsque je crois en Christ, c'est manger sa chair, c'est lui permettre en définitive de prendre la vie dans le plus intérieur qu'il y a de possible, afin que nous vivions par lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Oui, la chair de Christ est vraiment une nourriture. Elle nous apporte la vie de Jésus chaque jour, pour que notre vie, finalement, devienne de plus en plus conforme à Christ. Certains disent, c'est peut-être un peu maladroit, je deviens ce que je mange. Ce n'est pas tout à fait faux. Quand on voit des fois ce que l'on est, ce que l'on devient par l'alimentation. Et c'est ce que nous voulons, nous aussi. C'est ressembler à Christ. L'apôtre Jean ira jusqu'à dire, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Manger Christ, croire, le saisir. Jésus est la vie. Jésus donne la vie. Jésus nous nourrit de sa vie. Et je crois qu'en partageant particulièrement le repas du Seigneur ensemble, c'est réaliser pleinement que nous ne pouvons pas vivre sans être nourris de la vie qui vient de lui. Partager le repas du Seigneur ensemble, c'est réaliser pleinement que nous ne pouvons pas vivre sans être nourris de la vie qui vient de lui. Auprès de Dieu est la source de la vie. Jésus est la vie. Jésus donne la vie. Jésus nous nourrit de sa vie. Pas que le dimanche matin. Pas que d'une manière épisodique. Vous savez, dans la vie, quand vous cessez de manger, pour différentes raisons, il y en a qui font des jeûnes, qui, voilà, pour différentes raisons, ça peut être une maladie. À un moment donné, voilà, s'il n'y a plus d'aliments, le corps, et qu'est-ce qu'on vous fait? On vous met une perfusion. Voilà, on va le passer directement. Voilà, que notre vie de communion avec le Seigneur ne soit pas comme ces perfusions qu'on est obligé, que le culte ne soit pas une perfusion dans notre vie, mais que chaque jour, surtout autour de sa parole, nous puissions prendre le temps, les uns et les autres, dans ces moments d'intimité, de communion, de continuer à le laisser grandir dans notre vie, manger sa chair, croire en lui, avoir de plus en plus confiance en lui. Je conclurai par cette pensée, oui, que c'est fondamental que nous nous retrouvions pour célébrer la mort de Christ à la croix du calvaire. Mais dans le monde protestant, on a eu la bonne initiative, vous savez, sur ces croix, on n'a pas laissé Christ. La croix, elle est vide. On aurait pu choisir aussi un autre symbole pour les protestants, en tout cas pour ceux qui vivent la réalité de la résurrection de Christ. C'était le tombeau vide aussi. C'est important de se retrouver et de prêcher en tout cas l'évangile autour de la mort expiatoire de Jésus. Mais c'est aussi important d'associer cette foi à la résurrection, que nous puissions réaliser que Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4 et le verset 25. Dieu est vraiment la source de la vie et il souhaite constamment, au travers de Jésus, nous transmettre cette vie. Jésus a utilisé une autre image qui est excessivement forte sur ce thème que nous partageons ce matin, c'est celle du cep avec les sarments. Le sarment reçoit la vie du cep à partir du moment où il reste attaché à lui. Et Jésus a dit ces paroles, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans Jean chapitre 15, verset 4. Si nous restons fixés au cep, Christ, eh bien, le cep va déverser en nous la vie. Nous devenons en définitive, un peu comme la nourriture, je disais tout à l'heure, nous devenons une même plante avec lui, et nous portons du fruit. Nous sommes féconds pour la gloire de son nom. Un chrétien authentique, non seulement il réalise qu'il est né de nouveau, qu'il a la vie de Christ en lui, mais il demeure tout au long de son existence en Christ. Il puise à la source de la vie afin que sa vie permette la glorification du nom du Seigneur, afin que sa vie porte en tout lieu la gloire de son nom. « Demeurez en moi, dit Jésus, demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Amen.